Gilles Bouillon, bonjour.
Oui, bonjour.
Tu as une nouvelle création
Ouais.
après Cyrano de Bergerac
Ouais.
l'année dernière et qui est
Ok.
encore en tournée.
Oui.
Tu t'es lancé avec Melchio et les
Oui.
Kids,
Oui.
qui est un texte qui est très peu joué, il me semble, hein, de Melchio.
Oui, très peu joué.
Très
Oui,
peu
je crois que ça a
joué.
été joué deux, trois fois. Voilà, mais pas plus. À mon avis, il est souvent joué dans des lycées, dans des choses comme ça, puisque une des qualités principales de ce texte-là, c'est que ce sont des enfants entre 13 et 17 ans, et qu'à mon avis, souvent dans les lycées, ils s'en emparent et ils essayent de faire quelque chose avec ça. À mon avis, ça doit être très difficile, parce que je
C'est un
pense
texte qui est très casse-gueule,
c'est
je
un texte
trouve.
très casse-gueule et très difficile. Ouais.
Alors, sans vouloir te lancer des fleurs tout de
Oui,
suite, hein, ça va pas être
oui,
le but,
oui.
mais je trouve que tu as vraiment réussi à trouver un équilibre sur ce texte. On a l'impression qu'on ne sait pas par quelle boule prendre ce texte.
Non. Oui.
Quand on le lit,
Oui.
même quand on l'écoute,
Oui.
je serais curieuse de savoir un petit peu comment s'est passé le travail de répétition et comment tu as pu
Alors,
aborder en fait un texte comme celui-ci.
écoute, le travail de répétition. Bon, j'ai la distribution, étant donné que c'est une troupe de jeunes acteurs du JTRC, là, du Jeune Théâtre en région centre, je leur avais pas donné avant le premier jour de répétition la distribution. Et en fait, quand je suis arrivé le premier jour des répétitions, j'ai donné la distribution. Voilà. Et à partir de là, on a répété assez longtemps quand même. Oui, longtemps, j'ai répété autant que pour Cyrano, j'ai répété 8 semaines. Et par contre, les 3 premières semaines, on n'a fait qu'un travail d'atelier. Un travail d'atelier à partir des situations, à partir d'improvisation, d'exercices et à partir des personnages. Où chacun, on a essayé d'ouvrir des portes à l'intérieur de ce texte-là pour être suffisamment fort et établi, oui, dans quelque chose de fort quand on aborderait le texte proprement dit. Donc les journées, en gros, ça se passait, j'en sais rien, de 13h30 à 20h30, si tu veux, non-stop, juste avec une pause de 15 minutes. Et en fait, c'était tout un travail d'exercice, d'improvisation. Et puis, en fin d'après-midi, la dernière heure et demie, un travail de lecture qu'on essayait de faire le plus pointu possible, accompagné d'un travail de dramaturgie. Voilà. Et ils apprenaient pas leur texte et tout encore, donc on s'est comme ça petit à petit imprégné du texte, parce qu'en gros, la grosse difficulté, c'est que ce texte, il joue sur plusieurs registres. Par moment, il est poétique, il se voudrait poétique, par moment, il est très répétitif, par moment, il est abstrait, par moment, il est très réaliste, par moment, il est très concret, par moment, il est rêveur, par moment, il est au contraire très cru, presque à la limite de la vulgarité. Enfin, il y a un nombre de gros mots, comme on dit, ce que je préviens souvent avant des séances scolaires, parce que les mômes sont choqués par des mots tels enculés, des choses comme ça, qui reviennent quand même beaucoup. Voilà. Alors, effectivement. Et puis, tout cette espèce d'anglais de cuisine, où en fait, ces gosses-là, dans la situation à Sarajevo, ça, je pense que c'est absolument historique, leur seule chance de s'en sortir, c'est de baragouiner un peu comme dans tous les pays. On parle pas des pays du tiers-monde, là, mais comme dans tous les pays en guerre ou en voie de développement, où il faut baragouiner de l'anglais pour arriver à s'en sortir. Donc, il y a un mélange comme ça de langue, de langage, de territoire, de religion, d'ethnie, avec des codes très différents. Donc effectivement, c'était assez difficile. Et puis j'oubliais aussi, on parle en vrac là, que dans tout le travail de répétition, on a projeté un film par jour. Alors le film, ça allait aussi bien de Sarajevo, mon amour, qui est un film de fiction aussi, qui se passe un an après la paix à Sarajevo, où il y a comme ça une bande d'enfants et tout, et un mère, une fille, une relation très forte avec un. Elle sait pas qui est le père. Elle lui dit juste à la fin, c'est presque aussi dramatique que la pièce de Melchior. En fait, elle a été violée et elle est incapable de dire à sa fille quel est le père, quel est son père, quoi, puisqu'elle a été violée des dizaines de fois. Voilà. Donc que Les ailes du désir de Wim Wenders sur le travail du retour de l'ange, etc., la femme en noir et la femme au didascalie, que West Side Story, parce que ça monte sur des échafaudages et tout, il y a une espèce de vivacité physique et corporelle que moi j'ai absolument voulu induire dans le spectacle et introduire dans le spectacle. Voilà. Et puis aussi, il n'y a pas de rôle principal, ça c'est très important, c'est un travail de groupe, c'est un travail choral, c'est un travail collectif, et il faut vraiment que les gens jouent ensemble. Parce qu'à mon avis, le texte n'est jamais assez puissant. Je ne vais même pas dire fort, puissant, pour que tout d'un coup un acteur seul puisse vraiment. Voilà, c'est pas du Shakespeare, quoi. Et il cherche pas à faire Shakespeare, Melchior. Mais enfin, voilà. Bon, et puis c'est un texte sur la guerre, et à mon avis, une des particularités de cette pièce, c'est qu'effectivement, c'est la guerre vue à travers les yeux et à travers le prisme d'enfant. Voilà. Donc au-delà de tout clivage ethnique, politique, religieux, et c'est ça qui m'a plu dans cette pièce, et c'est ça que j'ai trouvé formidable. Voilà. Et puis que les acteurs n'ont pas l'âge des rôles, mais qui n'en sont pas loin. Donc c'est encore un souvenir très proche. Je crois que le plus jeune a 21 ans, le plus âgé a 26 ans là. Donc c'est pas si loin de 16 ou 17 ans ça. Voilà. Donc c'est, je sais plus exactement d'où on était parti. Tu posais une question sur le travail de répétition. Voilà. Donc il y a eu ces 3 premières semaines, et puis après il y a eu 5 semaines, donc où on a mis en forme. Donc on a fait beaucoup de travail physique aussi. On a fait 3 fois par semaine de la capoeira, tout ça. Oui, voilà. Parce que moi, de toute façon, j'aime l'engagement des corps dans le théâtre. C'est ce qui me plaît. Voilà, qui est quelque chose comme ça.
T'as su soulever pas mal de choses là dans tout ce que tu m'as dit, et notamment tu parlais de Sarajevo, mais moi ce qui m'a noté, dans ce texte et dans le travail que vous avez fait, c'est cette atemporalité. Oui. C'est un texte qui est, j'ai envie de dire, universel.
Oui.
Tu me parles de Sarajevo, mais par exemple, pour être allé à Belgrade, il y a une bombe justement qui est tombée devant la télévision avec, il y a encore un monument, on voit à Belgrade à ce sujet, et on a l'impression d'être à Belgrade aussi.
Tout
avec
à
des
fait.
Enfants de Belgrade.
Tout à fait.
On pourrait être n'importe où ailleurs,
oui,
finalement.
Oui.
Il y a quand même, on traverse des frontières qu'on retrouve aussi dans cette scénographie d'ailleurs.
Oui, et puis c'est des enfants de la guerre, mais à la limite de toutes les guerres, et c'est aussi une génération qui se rejoint en meute, quoi. C'est-à-dire, il crée une meute. À partir du moment où la famille a explosé, c'est-à-dire, c'est une bande d'enfants, quoi. Et qui vit ensemble. On a vu plein de documentaires, de films et tout sur ces gosses au Brésil qui sniffent et tout dans les favelas, etc. Et qui sont comme ça, comme des chiens errants, comme des meutes. Et là, effectivement, à chaque fois qu'il y a une guerre, on retrouve comme ça ces espèces de bandes, ces espèces de meutes d'enfants qui se recréent et qui recréent comme ça une micro-société à partir du moment où la famille a complètement explosé, où tous les repères familiaux, le père, la mère, la grand-mère, la famille, disparaissent. Et ça, effectivement, t'as entièrement raison. C'est la guerre, premier jour de la paix à Sarajevo, avec des temps, des flashbacks et puis des projections en avant. Mais c'est toutes les guerres, t'as entièrement raison. Et pas seulement les guerres de l'Est, des anciens pays à l'Est, comme ça, mais toutes les guerres, quoi, vraiment.
Alors, on a 10 jeunes sur scène.
Oui.
La question que je me pose, c'est comment est-ce que 10 jeunes occidentaux, dans l'ensemble, j'imagine, en tous les cas vierges de tous ces conflits-là, peuvent arriver à se mettre dans la peau de ces personnages qui ont une âme d'enfant, qui n'en demeure pas moins quand même écorchée.
Oui. Alors, si on a regardé énormément de documentaires.
Tout le rôle des documentaires.
Sur Sarajevo, beaucoup, si tu veux.
Le but, c'était de les sensibiliser.
Les sensibiliser. Et puis, on a fait un gros travail dramaturgique historique, si tu veux, ethnique, religieux, tout ça. Donc, petit à petit. Et puis, ce sont des acteurs. Donc, ils font toujours comme si, la phrase magique au théâtre, c'est on fait comme si c'était vrai et c'est pas vrai, voilà. Et qu'un acteur, de toute façon, ça a obligatoirement une âme d'enfant. C'est-à-dire qu'un acteur, c'est toujours à la recherche de son enfance. Enfin, quand on voit la facilité des enfants pour jouer, j'en sais rien, jusqu'à 6, 7, 8 ans, à se créer des fictions, à s'enfermer dans des univers et tout. Puis tout d'un coup, à partir de 9, 10 ans, ça devient très difficile. Enfin, ce moment comme ça, de solitude face au jeu ou avec les autres disparaît. Voilà, ça a été assez facile. Voilà. Et puis, c'est parce qu'aussi, tu le disais en introduction, c'est-à-dire, ils venaient de jouer dans Cyrano. Et dans Cyrano, ils avaient ce qu'on appelle des rôles d'appoint, quoi. Ils avaient surtout un travail de cœur. Ils étaient tout le temps ensemble et tout. Et là, tout d'un coup, ils pouvaient s'emparer de personnages. S'emparer de personnalités différentes de la leur. Voilà. Donc c'était leur première mise à l'épreuve et mise au feu comme ça, en gros, de qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je peux faire face à un personnage.
Tu disais dans ta note d'intention que c'est une pièce pour laquelle tu as eu un vrai coup de cœur.
Ouais.
Et une des questions que je me posais, donc tu nous as expliqué tout à l'heure pourquoi est-ce que cette pièce t'a plu.
Oui.
Mais je me demandais si la musicalité des mots, du texte et sa poésie n'était pas aussi une des raisons, enfin une des choses qui t'ont attiré. Je pense notamment à ton amour de l'opéra.
Oui.
Je pense le fait que tu as introduit Gabriel Bouillon, d'ailleurs qui n'a rien à voir avec
Gabriel
Bouillon, sur scène, un guitariste.
Oui.
Bon, tout ça quand même est assez particulier.
Oui. C'est vrai que la langue de Melchior, il y a une musicalité, il y a aussi un rythme, il y a comme ça une pulsation. Et la manière dont c'est écrit aussi, c'est écrit par moments complètement en prose et par moments en langues inné... en... en... en lignes inégales, on peut pas appeler ça des vers, donc ça donne une rythmique. Je crois que Melchior, il est très proche de la musique aussi. Bon, c'est pour ça que j'ai introduit et de la poésie. C'est pour ça que j'ai introduit aussi un guitariste, parce qu'à mon avis, l'instrument du 20e siècle, c'est la guitare électrique, et du 21e siècle, c'est la guitare électrique. Donc c'était pas seulement une coquetterie ou un clin d'œil où on va essayer de faire jeune ou on va essayer de faire moderne. Non, je crois que vraiment depuis 1950, l'instrument de toutes les générations, c'est la guitare électrique. Donc c'est pour ça, et effectivement, t'as raison sur la musicalité de la langue, la rythmique, une espèce de langue éclatée aussi, on parlait tout à l'heure, sur différents registres, et c'est ça qui m'a intéressé, vraiment. Et le coup de foudre, c'était parce que face à ce groupe de jeunes, qu'est-ce qu'on peut monter? C'est-à-dire, je vais pas monter un énième Marivaux, j'en avais marre, j'en ai monté beaucoup des Marivaux, donc je voulais absolument trouver un texte contemporain. Pas forcément sur la guerre, mais je suis tombé sur cette pièce de Melchior, pas par hasard, parce qu'on a beaucoup lu, et c'est celle-ci vraiment.
Bernard Picot aussi.
Bernard Picot et la scénographe Nathalie Holl, voilà, on a lu, dès la première de Cyrano passée, on disait bon, la saison prochaine, c'est avec ces jeunes-là qu'on va travailler, donc qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Mais j'étais très séduit, oui, par cette œuvre de Melchior, voilà. Très séduit.
Alors je reviens encore un tout petit peu sur cette musicalité et je me suis demandé si cette musicalité n'était pas là pour, d'une certaine façon, s'opposer à cette situation et au lieu de finalement de les adoucir, venait les frapper encore avec plus de violence.
Ouais, t'as raison. C'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, oui, ça vient pour. C'est Beckett qui dit une phrase, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est vraiment dans la merde? Ben, il faut se mettre à chanter. C'est une phrase de Beckett, ça, voilà. Et si tu veux, peut-être que Melchior s'est inspiré de cette phrase-là, mais il n'empêche que la manière dont on a traité les chansons et tout, et cette manière rude, effectivement rugueuse de traiter la musique, vient au contraire, fait comme un boomerang et leur revient en pleine gueule, quoi. Leur revient comme ça. Oui, c'est pas la musique adoucit les mœurs, c'est au contraire, c'est une preuve aussi de violence et d'exorciser l'espèce de violence qu'on peut avoir en soi, quoi. Mmh. C'est le rôle de la musique dans ce spectacle.
Alors, autre chose qui ne peut qu'interpeller en tous les cas, c'est quand même la scénographie de Nathalie Holt.
Oui.
Est-ce qu'elle t'a paru d'emblée comme une évidence, cette scénographie?
Bah, on a beaucoup hésité, hein. C'est-à-dire qu'on s'est dit. D'abord, on a tout de suite décidé que ce serait bifrontal. C'est-à-dire de manière à ce que on s'est raconté une histoire de sniper, de contre-sniper, puisque les snipers étaient perchés et descendaient des gens. Donc on a voulu mettre à la fois les acteurs en danger et aussi les spectateurs en danger. Et que les spectateurs soient vraiment témoins et très proches des acteurs. Donc c'était les mettre quelque part dans une position inconfortable ou pas comme d'habitude. Là, je parle de mon aventure à Tours, par exemple. Les gens, ils rentraient, ils savaient plus où ils étaient. Ça fait 8 ans qu'ils viennent dans ce théâtre. Et là, tout d'un coup, c'était pas numéroté de se retrouver en bifrontal. Jamais il y avait eu un spectacle bifrontal dans ce théâtre. Donc, on a décidé ça immédiatement. Et puis après, on s'est dit, comment on traite ça? Est-ce qu'on fait quelque chose, entre guillemets, de relativement réaliste? Et très vite, on a trouvé que ce qui nous intéressait, c'est la marelle et c'est le jeu d'enfant qui nous intéressait. Donc la marelle, elle est dite par Melchior, Revka trace une marelle au sol. Et très vite, on a pris ce principe, donc on est parti d'un tapis de danse noir. Et puis, on a construit comme ça, aux deux extrémités, deux espaces différents. Ce qui ressort de toute façon dans toutes les photos, y compris dans les photos de cette guerre dans les Balkans et tout, c'est que il y a comme ça ou des poteaux de football ou des pistes de skate à moitié en morceaux ou abandonnées, voilà. Et puis, le fait de grimper comme ça sur un bout d'échafaudage et que les deux se renvoient comme ça, pas en miroir, mais qui est comme ça deux énergies verticales qui surgissent avec une plus adoucie, mais qui sert aussi comme de plongeoir ou de se lancer, de retourner en arrière ou au contraire d'aller carrément vers l'avant. Voilà, le mouvement m'intéressait. Et puis le mouvement aussi d'aller se percher et puis d'être comme des grappes comme ça, tout d'un coup, 7 ou 8. Moi, je trouve ça très beau quand on les voit à 7 ou 8 sur l'échafaudage comme ça. Enfin, ça me plaisait. Voilà. Je voulais faire pas un spectacle acrobatique, mais vraiment un spectacle où le corps avait une importance folle. Donc c'est pour ça qu'il y a ce tapis de danse, c'est pour ça que les murs de la... que beaucoup de choses sont tracées à la craie sur le sol, puis après effacées par un coup d'éponge ou un coup de serpillière, voilà. On voulait travailler aussi sur une espèce de précarité, parce que sans arrêt, il est dit dans le texte qu'ils cherchent un endroit pour dormir, qu'ils savent pas où dormir, qu'ils dorment dans un coin et tout. Donc cette espèce de nomadisme à l'intérieur d'une ville, on voulait, et de précarité, on voulait aussi le rendre sur le plateau, quoi. Donner ça vivant et donner ça très proche. Voilà. Et donc de pas rentrer dans une scénographie paysage où il y aurait eu, j'en sais rien, une évocation de Sarajevo et tout, c'était pas intéressant. Ou de faire, mettons, la chose où on a beaucoup hésité, c'est de faire un sol accidenté. Non, c'est bien plus malin, à mon avis, enfin, dans ce qu'on a fait, hein, de dresser comme ça, de chaque côté, à jardin et à cour, d'une part un échafaudage et d'autre part une petite piste de skate, quoi.
En plus, ce qui m'a marqué par rapport aux thématiques, c'est que j'ai eu le sentiment que ce choix de dispositif était presque une métaphore de cette guerre, ou plutôt de ce premier jour de paix. Je m'explique. Un espace ouvert, un peu sans queue ni tête, ouais. Dont on ne sait pas finalement par quel bout attraper. Ouais. Je crois que d'ailleurs, c'est un des enfants qui dit on ne sait pas par quel bout attraper cette paix.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui, oui, oui. On ne sait pas quoi en faire, quoi. Et puis après, ils osent dire la paix, on saura bien faire avec ou un truc comme ça, mais à la toute fin, quoi. Ou on a du mal avec. La paix, on a du mal avec. Ça, c'est une des premières phrases du texte à propos de ce que tu dis. Et puis après, la paix, quand Boschko et Admira partent pour traverser le pont, on saura bien faire avec. Il y a une phrase comme ça. Oui, c'est un espace sans queue ni tête. C'est-à-dire, c'est... On est ailleurs et on ne sait pas où on est. Mais effectivement, on peut être n'importe où. Ouais. On pourrait aussi bien être en Afrique, qu'être en Tunisie, qu'être en... Enfin voilà, et c'est ça, moi, c'est ça qui nous intéressait dans cette proposition d'espace. Avec quand même ce rapport au spectacle, cette bifrontalité, où le corps de l'acteur est exposé de part et d'autre, partout, où l'acteur est vraiment mis en danger. C'est-à-dire que finalement, après retourner jouer uniquement en frontal, c'est assez confortable. Là, il faut sans arrêt être présent dans le dos, faire attention dans le dos, être suffisamment...
Il n'y a aucun refuge possible.
Hein. Aucun refuge possible, on ne peut pas se planquer, quoi. Voilà. Donc on est à nu. Voilà. Ce qui nous a beaucoup frappé, si tu veux, quand on a regardé les films sur Sarajevo et tout, c'était que les gens couraient sans arrêt, quoi. C'est-à-dire pour aller chercher de l'eau et tout, les gens couraient. Alors il y avait des gens qui avaient décidé, bah, si la mort doit arriver, ils marchaient au contraire très lentement, mais mettons 80% ou 90% des gens couraient dans la rue pour aller chercher de l'eau, pour se faire un petit raccord électrique, pour enfin voilà, pour aller chercher du bois pour se chauffer, etc. On a vu beaucoup de trucs très très intéressants là-dessus.
En tous les cas, cet espace qui inclut encore d'autres espaces, il y a aussi l'espace aussi imaginaire des enfants.
Oui.
J'ai aussi pensé beaucoup aux contes.
Oui, oui,
forcément.
Oui, oui.
Il y a une histoire du petit poussé quand même avec les cailloux.
Évidemment.
Il y aurait même Peter Pan le monde des parents perdus.
Oui,
des
oui.
Des
non,
enfants,
mais tout à fait.
Orphelins. Enfin,
oui.
Il y a quand même des résonances qui peuvent aller bien
oui,
plus
oui.
loin.
Oui, oui. Mais même si tu veux, à un moment, quand ça patauge, mouille au paradis, il y a un jeu avec l'eau aussi. Tu vois ce que je veux dire ? On s'éclabousse, on s'amuse encore avec l'eau. On a encore cette naïveté et de patauger, par exemple, qui est un truc d'enfance absolument extraordinaire, quoi. Oui, oui.
Une dernière question.
Oui.
Fabrice Melchiou, est-ce qu'il est venu voir ?
Oui, oui, il est venu. Oui, oui, oui. Il est venu. Il est venu le jour de la dernière à Tours. Je crois qu'il a été assez saisi parce que je crois qu'il n'avait jamais vu. Parce que l'histoire de cette pièce est bizarre. Je crois qu'il y a eu deux ou trois mises en scène, dont une mise en scène d'une jeune femme qui est morte pendant les répétitions. Et Fabrice Melchiou, il a été obligé de reprendre. La direction d'acteur, le projet et tout. Donc je crois que c'est une pièce... Voilà, il a écrit hein, deux pièces sur l'ex-Yougoslavie. Le Diable en partage, c'est dans le même volume. Ouais. Et puis celle-ci, Le Diable en partage, ça a été donné, ça a été joué.
Il a passé quelques années, je crois.
Hein, ouais, enfin quelques mois, sur plusieurs périodes et tout. C'est pas bidon, c'est quelque chose qui sort vraiment de lui. Voilà. C'est un bonhomme qui a un rapport particulier à l'enfance. Tu sais, il fait beaucoup de théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Voilà. Il est même directeur maintenant du grand théâtre à Genève qui s'appelle Amstramgram, je crois. Ouais. Enfin, je sais d'ailleurs. À partir du 1er janvier, voilà. Ouais, non, je crois qu'il a été très saisi, choqué et un peu... abasourdi, je crois, enfin voilà, qu'on s'empare de sa pièce et qu'on en fasse ça, quoi. Voilà.
Très bien.